Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ethno-archéologue passionné, diplômé de la Sorbonne, Jean-Michel est conseiller artistique pour des galeries et des musées. Mais pas que. Ayant étudié la sorcellerie et les rites initiatiques, Jean-Michel propose des conférences pour partager ses expériences apprises auprès de différentes traditions philosophiques et spirituelles. Dans cette émission Regarde ailleurs, nous parlerons de religion, du bouddhisme, de chamanisme, de rencontres avec les autres, mais aussi de rencontres avec soi. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi et sur les autres à travers ce regard qui est porté par les gens que je rencontre sur mon itinéraire. Chaque personne a une histoire, a des choses à nous partager. Et « Regarde ailleurs », c'est aussi ça, c'est permettre voilà, d'élargir sa vision grâce aux expériences d'expérience. Face à moi, j'ai un homme en chaussettes qui marche dans le cercle du feu sacré. Avec des yeux incroyables, avec un humour, je sens de l'humour aussi dans ce personnage qui s'appelle Jean-Michel. Donc voilà, on est sur un festival autour du sacré, autour du chamanisme, autour des peuples du monde, autour du spirituel. Enfin voilà, c'est des termes qui resteraient à définir, hein. Chacun des termes sont, voilà, qu'est-ce que c'est que le sacré, qu'est-ce que c'est que le chamanisme. On va essayer de voir tout ça avec toi, mais déjà j'ai envie de te demander qui es-tu, comment tu te définirais, et présente en quelques mots un peu ton itinéraire de vie.
Alors, je dirais que je suis quelqu'un qui aime la vie, ça, principalement. Et après, si j'ai de l'humour, c'est parce que je trouve que c'est bien de pas trop se prendre au sérieux. Et quand on parle de sacré, des fois, on peut se prendre au sérieux aussi. Parce que qui est-on pour définir ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré, hein ? Et une fois qu'on a défini quelque chose de sacré, eh bien, on peut considérer que le reste est un massacré. Alors voilà, donc un petit peu d'humour dans tout ça, ça fait du bien, ça désamorce un peu, tu vois, tous les jeux de l'ego, de voilà. Et donc l'humour, c'est la médecine de l'Eyoka. L'Eyoka, c'est, puisque ici on est dans un festival qui est très chamanique, hein, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets moi sur le mot chamanisme.
On le définira plus tard. Donc je te rencontre dans ce festival sans te connaître, mais maintenant je sais un petit peu dans quoi on va aller, dans quoi on va rentrer. On peut parler aussi de métacognition, hein, cette notion de déconstruire chacune de ses croyances. Et c'est peut-être vers ça que j'ai envie d'échanger, sur ça que j'ai envie d'échanger avec toi aujourd'hui, parce qu'en fait on se rend compte qu'on est bourré de croyances qui peuvent être limitantes. On est dans un festival où chacun vient nourrir finalement sa spiritualité, sa philosophie et souvent on retrouve aussi des luttes de pouvoir et des luttes d'ego là-dedans où chacun pense avoir raison.
Oui, mais alors une fois qu'on sait que la vérité n'existe pas, on n'a plus ce problème là. Donc je pense que la principale des choses à faire, c'est de se rendre compte que la vérité n'existe pas et que chacun a sa propre vérité et qu'on a à respecter la vérité des autres, bien sûr, à condition que les autres respectent notre liberté.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jean-Michel, on est donc sur le festival au cœur du sacré. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous honore de ta présence ici sur ce festival ?
Parce qu'on m'a invité. Si on m'avait pas invité, donc l'organisatrice Corinne, hein, qui a eu un contact par écrit, et puis voilà, elle m'a dit bah oui, viens, elle m'a offert un lieu pour exposer, c'est-à-dire cette tente berbère, ce qui pour quelqu'un qui s'intéresse aux civilisations est assez intéressant. Voilà, et donc je suis venu avec toute mon exposition et un petit peu mes connaissances aussi, faire des conférences et montrer tous ces beaux objets que l'on peut trouver dans le monde.
Donc ta collection personnelle autour de nous, on la regardera ensemble. Mais j'ai vu aussi sur l'accueil, là, effectivement, que tu donnes une conférence sur le thème de...
Alors, je vais donner trois conférences principales. Il y en a une sur les rites initiatiques et la mort. Très important, le tabou sur la mort, de voir pourquoi est-ce que les civilisations ont créé des rites initiatiques sur la mort. Il y en a un autre, c'est le chamanisme existe-t-il ? Donc c'est une remise en question du chamanisme, en fait, mais pas forcément que du néo-chamanisme, mais aussi du chamanisme ancestral. Et aussi une façon également d'honorer à la fois le néo-chamanisme qui nous a appris beaucoup de choses sur, sur notre capacité à pouvoir dépasser nos émotions, voilà, tout ce qui concerne le développement personnel vient des expériences chamaniques, en fait. Hein. Et donc, il y a une sagesse chez les anciens, il y a une sagesse chez les modernes. Et faire le tri dans tout ça, c'est un peu mon boulot, quoi. C'est-à-dire de prendre mon bassin de chercheur d'or, ma bassine de chercheur d'or, et de faire le tri et de pouvoir trouver des pépites, quelle que soit la situation. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, seul ce qu'on en fait devient intéressant.
Donc on va s'intéresser à ça, le chamanisme existe-t-il toujours ? Donc on va le définir, parce que le mot chaman, on l'emploie à beaucoup de sauces aujourd'hui, hein. C'est un mot que tout le monde connaît. Toi, tu me parlais d'animisme avant de connaître le mot chaman, qui je crois vient de Sibérie quelque part, ou de Mongolie. Donc de Sibérie. Donc voilà, un mot qui est aujourd'hui employé par beaucoup de personnes qu'on pouvait aussi appeler des marabouts, des guérisseurs, des guerriers.
Voilà, donc c'est un peu ce que j'explique, c'est que le chamanisme n'existe pas, ce sont les chamanismes, hein, comme tu viens de le dire, voilà, il y a énormément de pratiques à travers le monde, et chaque pratique a son intérêt ou porte son enseignement, et le mot chaman, il vient de la langue tsugur, qui veut dire plutôt quelque chose comme le fou qui danse, que comme le sage qui est assis sur la pierre, mais voilà, il y a pour dire que même le fou... peut, c'est aussi le cas de l'Eyoka, peut avoir un enseignement. La danse, bien évidemment, c'est la transe. Et donc la transe est très importante dans les chamanismes, hein, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient enfin anciens, ancestrales, hein, c'est-à-dire celtiques, ou qu'ils soient africains, ou qu'ils soient amérindiens. La transe est très très importante dans toutes les pratiques chamaniques.
Alors la transe, c'est un état. C'est ça, c'est un état dans lequel l'esprit humain peut se plonger pour accéder à une autre réalité, une autre vibration. Comment tu définirais la transe ? Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais ce serait intéressant aussi de parler de transe et de ce qu'est réellement une transe.
Oui, alors expérimenter, oui, bien sûr, parce que parler de la transe sans l'expérimenter, ça paraît difficile, hein. Ne serait-ce que d'essayer d'analyser avec des moyens techniques d'où vient la transe, c'est quasiment impossible. Mais effectivement, comme tu l'as dit, la transe nous met dans un autre état de perception, en fait, hein. Et donc c'est cet autre état de perception qui nous permet de percevoir une autre partie de la réalité qui n'existe pas.
Pourquoi n'existe pas ?
C'est de notre réalité, en fait. Donc, notre réalité, donc ça veut dire une pluralité de réalités, en fait. Et donc, ce qui était intéressant, y compris dans mon parcours initiatique, c'était de rencontrer d'autres réalités et aussi d'autres points de vue. Et la transe, en particulier, nous place vraiment dans un autre point de vue, dans un point de vue qui est très opposé à ce que nous enseigne le mental. Voilà. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que le mental c'est mal et que la transe c'est bien, pas du tout, hein. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on en fait qui est important.
Mais je veux bien essayer quand même de définir la transe, parce qu'on peut parler, je ne sais pas, en dansant, on peut atteindre des états de conscience modifiés, on peut atteindre des états de conscience modifiés à travers certains psychotropes, on peut parler du peyote ou des plantes, ou on peut atteindre peut-être des transes quand on a une douleur très très forte, enfin je ne sais pas, en fait j'ai du mal à visualiser, j'ai l'impression que l'esprit humain a cette capacité multiple à changer de fréquence ou de réalité.
Explorons-le alors.
Comment ?
Comme tu l'as dit justement, la danse par exemple, si tu prends l'exemple des derviches tourneurs, effectivement c'est la danse en fait qui les met dans un autre état de perception d'eux-mêmes.
Mais est-ce que cet état de transe est le même, hein, on parle de différentes formes de chamanisme, mais quand on utilise le mot transe, est-ce que le derviche tourneur va atteindre un état de transe similaire au chaman sibérien avec le tambour ?
Alors pas du tout le même état de transe. Hein. Et c'est des transes, on va dire, qui ouvrent. Alors là, c'est là, on touche un sujet un peu difficile parce que controversé, mais qui ouvre entre guillemets la porte d'autres mondes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul monde de la transe. Hein. C'est comme le chamanisme, il n'y a pas un seul chamanisme. Et donc il y a des transes qui sont très différentes, mais chaque transe nous enseigne une partie de ce que nous sommes. Donc c'est intéressant. Après, le problème, c'est de ne pas non plus se perdre dans la transe. Parce que dans la transe, on peut aussi bien partir à la recherche de soi-même que partir dans la fuite d'une certaine réalité, ou en tout cas d'une certaine recherche de notre réalité. Voilà. Voilà, donc c'est là où se situe le problème de la transe, c'est qu'il est très diversifié en fait, hein, et à un moment, bien, je pense qu'il est nécessaire, en tout cas c'est ce qu'ont fait les traditions, de définir des règles et de définir une voie, hein, ce qu'on appelle une voie, c'est-à-dire un chemin qui nous mène à la connaissance de ce que nous sommes. Voilà, donc c'est le rôle, le but de la transe, c'est de trouver ce chemin. Et si on va chercher trop de transes différentes, on risque de se perdre et ne pas trouver son chemin. Trouver son chemin, peut-être, c'est trouver le chemin du silence, de la joie, de l'amour en soi. Voilà, c'est la finalité du but, la finalité de la recherche.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce que tu peux nous partager une expérience qui t'est propre par rapport aux trans, ce que tu as cherché à vivre des trans et quels ont été les moyens d'accès, les clés qui t'ont permis d'ouvrir les portes de cette réalité?
Alors on a vu l'exemple de la danse qui pouvait ouvrir la transe, hein, qui est aussi pratiquée très différemment en Afrique, hein, et d'autres moyens aussi. Personnellement, après avoir étudié plusieurs possibilités, j'ai choisi une transe particulière obtenue à partir des plantes. Et des plantes, il y en a des milliers dans le monde en fait, et il y en a autant que de traditions chamaniques, c'est-à-dire que même les Tibétains, ce qui est très peu connu en fait, ont des plantes qui provoquent la transe, ça s'appelle le soma. Les Hindous ont l'amrita, les Africains ont l'iboga, entre autres. Hein, les Égyptiens avaient la connaissance du LSD entre guillemets parce que c'était plutôt l'ergot de seigle. Ouais. Et donc voilà, il y a toutes sortes de plantes à travers le monde qui permettent d'atteindre la transe. Maintenant, ce qui se passe avec la recherche moderne de ce qu'on appelle le tourisme des plantes ou des champignons, c'est que c'est toujours le problème que j'ai exposé tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est à la recherche de nous-mêmes ou est-ce qu'on est à la recherche de la fuite de ce que nous sommes? Et c'est ce qui fait la différence entre la plante sacrée et la drogue en fait. Voilà, c'est donc bien nous qui sommes au cœur de l'expérience et c'est les décisions qu'on va prendre par rapport au choix de notre réalité qui vont déterminer aussi notre évolution.
Et en quoi est-ce qu'une transe peut avoir un impact ou un effet sur ton état de conscience non modifié? En quoi est-ce que le fait de chercher une transe ou de vouloir se mettre dans cet état de transe va... Qu'est-ce que ça va t'apporter finalement, toi en tant qu'être humain ou toi auditeur qui écoute cette émission, qui a jamais eu cette idée d'entrer en transe? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument vivre une fois dans sa vie ou pas du tout? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta réalité du quotidien?
Oh, alors là, il y a plusieurs questions qui sont épineuses. D'abord, chacun choisit sa voie. Hein, donc on regarde, on étudie, on observe et à partir d'un moment, on fait un choix et on peut très bien tout à fait dire non, ça c'est pas fait pour moi. Ça, je le comprends parfaitement et même c'est plutôt souhaitable. Après, il y a cette idée de qu'est-ce que la transe nous amène sur la connaissance de qui nous sommes. Ça, je suis obligé de prendre un exemple. Par exemple, quelque chose qui va paraître très bizarre aux oreilles occidentales, mais pas du tout aux oreilles de tous les peuples qui nous ont précédés, c'est la transformation animale. C'est quelque chose qui est extrêmement... On parle d'animal totem, on parle de choses comme ça. Bon, la transe par les plantes nous apprennent notre animal intérieur, en fait, c'est-à-dire qu'elle nous fait vivre l'animal qui est en nous, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a, on n'est plus en capacité de nous considérer comme des êtres humains, mais seulement comme un animal. Et on éprouve physiquement cette transformation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette façon, voilà, où est-ce que ça nous mène tout ça, hein? Parce que après, c'est ça, c'est la substantifique moelle, comme dirait Rabelais. Et la problématique, elle arrive au moment de l'intégration, c'est-à-dire que cette information, en fait, qui est passée en nous et qui n'est pas une information qui est passée par le mental, elle vient nous enseigner quelque chose, mais c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de méditation. C'est très important, la méditation, quelle que soit la voie qu'on ait choisie, qui nous permet d'intégrer. Par exemple, cette puissance animale ne sera pas intégrée si elle n'est pas cultivée, en fait, non pas cultivée de façon se transformer en loup-garou tous les jours, mais dans le sens de la méditation, c'est-à-dire de sentir en nous cette énergie, en fait. J'ai pas envie de dire puissance, parce qu'il n'y a pas forcément des animaux, on peut être transformé en loutre aussi bien qu'en insecte, aussi bien qu'en voilà, quand on, alors évidemment, dans le néo-chamanisme, beaucoup de gens, bon, moi je suis aigle bleu, moi je suis loup blanc, moi je suis ceci, bon voilà, c'est que des reflets de l'ego, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'expérience, mais il y a profondément une modification de notre structure énergétique qui fait qu'on est changé. On est changé, et après, c'est le travail d'intégration qui peut prendre plusieurs années. Qui permet de effectivement fixer l'énergie, en fait, fixer cette modification de notre vibration intérieure.
Alors, est-ce que le chamanisme existe vraiment ?
Bah, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le chamanisme, non, les chamanismes, oui, on peut pas le nier, parce qu'il y a tellement de traditions dans le monde. Il y a quelque chose effectivement dans le chamanisme qui se passe à l'intérieur de nous, de notre conscience ou de notre énergie, peu importe comment on l'appelle. Il y a une modification qui se fait, mais que ce soit dans le chamanisme ou que ce soit dans le yoga ou que ce soit, c'est le même processus qui est en œuvre. Hein. C'est un processus qui passe par le corps. Voilà. Or nous, on a des processus qui passent par la tête, comme tu disais tout à l'heure, et la tête, c'est compliqué parce qu'elle ne peut pas tout gérer, et parce qu'elle croit surtout qu'elle va pouvoir tout gérer, et parce que voilà, parce qu'il y a de la prétention, il y a du désir de pouvoir, de tout ça. Mais évidemment, si on passe par le corps, on va apprendre un peu à vivre avec le corps, et c'est beaucoup plus intéressant, et surtout ça va sûrement limiter les effets catastrophiques que l'on voit actuellement de l'utilisation du mental, de la place que l'on donne au mental.
Et toi, Jean-Michel, dans ta quête spirituelle, hein, dans ta quête de sens, donc tu disais que tu allais voir différents peuples, différentes traditions, mais dans laquelle tu as trouvé un écho, une résonance plus qu'une autre aujourd'hui, quels sont les outils qui toi t'ont réellement permis peut-être de te découvrir, parce que c'est ça finalement cette quête, c'est apprendre à savoir qui on est.
Alors oui, j'en ai quand même exploré plusieurs. Au début, ça a été le bouddhisme qui m'a vraiment beaucoup intéressé, passionné, mais je suis jamais rentré dans le bouddhisme vraiment. Ensuite, j'ai beaucoup étudié l'alchimie, ça m'a aussi passionné, et puis j'avais des enfants qui étaient en bas âge, je pouvais pas trop voyager, il fallait que je m'occupe d'eux quand même. Et donc j'ai étudié l'alchimie à ce moment-là, et puis après je me suis tourné vers une tradition amérindienne. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que dans le travail que j'ai fait avec les plantes psychoactives, c'est que j'ai été amené à me rapprocher beaucoup des bouddhistes au début, mais tout de suite après, je me suis énormément rapproché des Amérindiens d'Amérique du Nord. Or, je n'ai jamais rencontré les Indiens d'Amérique du Nord. Quand j'étais petit, j'étais cow-boy plutôt, canadien. Et en fait, j'ai été très très influencé par les cultures, mais pas par les cultures, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu dans mes expériences. Voilà, les Amérindiens ont été, les Amérindiens du Nord ont été très très présents. Et après, j'ai eu d'autres ancêtres, hein. C'est pour ça aussi que je porte la parole des ancêtres, c'est-à-dire que j'ai fait des rencontres dans mes expériences avec des ancêtres qui m'ont enseigné beaucoup de choses, en fait, à être qui je suis encore aujourd'hui.
Cette notion d'ancêtre, alors moi je la questionne en fait, hein. Tu parlais du bouddhisme, donc là on parle de réincarnation, dans l'hindouisme aussi, dans les ancêtres aussi, c'est quelque part on appartient à une lignée, mais comment on fait pour savoir si ce n'est pas une croyance, le fait de penser qu'on a eu d'autres vies et qu'on est relié à ses ancêtres, et qu'on a eu plusieurs vies ou plusieurs âmes, on parle de vieilles âmes parfois, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la croyance qu'on n'est pas simplement juste de passage et qu'il ne se passe plus rien après et qu'il n'y a rien eu avant?
Ben, si on veut sortir de la croyance, il faut rentrer dans l'expérience, c'est tout. C'est une expérience qui vous enseigne qui vous êtes, quoi. Donc toutes les expériences, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec la danse, que ce soit avec le yoga, que ce soit avec le tir à l'arc, hein, pour certaines traditions, ou les arts martiaux, ce sont un véritable enseignement sur ce que nous sommes, et c'est surtout une pratique du corps. C'est une pratique du corps, et c'est ça qu'on a oublié dans notre civilisation, c'est que si on fait du yoga, par exemple, juste pour décontracter les muscles et assouplir les articulations, bon, c'est sûr qu'on est très très loin de l'essence de ce que peut être le yoga. Bon, le yoga est un dossier très très lourd, d'ailleurs il a été soulevé dans France Culture il n'y a pas longtemps, par France Culture, dans une série qui s'appelle LSD sur le yoga, je crois qu'il y a eu 4 émissions. La première est la plus intéressante sur l'histoire du yoga. Mais tout ça pour dire qu'il y a de très nombreux enseignements et que on a à faire un choix parce qu'on ne peut pas suivre tous ces enseignements. Alors pour ce qui concerne les vies, je ne sais pas, moi je n'ai pas de connaissances particulières dans ce domaine-là parce que je m'occupe plus du moment présent que de mes vies passées. ou futur. Il y a eu une étude, un universitaire américain qui a étudié quelque chose comme 2000 cas de réincarnation chez les enfants et qui a fait un film assez exceptionnel. Et donc il a suivi en particulier un garçon qui se rappelait très bien de sa vie antérieure et qui raconte en détail en fait et tout. Et donc il est allé sur place, il a vérifié, il a rencontré les gens, il a retrouvé la trace des gens dont l'enfant parlait et tout. Voilà, donc moi je trouve ça très rigolo, très intéressant, mais j'en fais pas un fromage en disant oui, on a des vies futures, des vies passées, on s'occupe de ce qu'on est maintenant, je pense que c'est plus important. Le reste, ça reste une curiosité intellectuelle. Mais ça peut être aussi une expérience. Certains ont des expériences de vie antérieure. Ça m'intéresse beaucoup plus. Moi j'en ai pas eu, donc je peux pas trop en parler.
Qu'est-ce que tu aimes partager dans tes conférences? Pourquoi tu fais des conférences et quelle est l'essence de ce que tu partages aux gens qui viennent te voir?
La présence, notamment, la présence. L'amour, c'est compliqué, ça ce serait bien, mais c'est vraiment pas simple. La présence, ouais, j'aime bien partager la présence. Et aussi un enseignement qui passe par le contact, comme on l'a là en ce moment, et qui n'est pas celui que les auditeurs ont de l'autre côté du micro, tu vois. Donc il y a un contact direct qui pour moi est très important, en fait, un contact direct, voilà, je suis super bien accueilli partout où je vais, je trouve ça magnifique. Après, je suis pas riche du tout, parce que j'ai jamais demandé d'argent pour quoi que ce soit, mais j'ai une vie qui est très riche, voilà, donc je trouve ça très chouette, ces voyages que je fais pour partager la parole des anciens.
Tu parles de présence, donc quand je pense à présence, on pense à ce best-seller d'Eckhart Tolle quand il parle du pouvoir de l'instant présent. Donc qu'est-ce que c'est que la présence? Quelle est ta définition de la présence et qu'est-ce que c'est qu'être présent et en présence?
La présence, c'est la différence qu'il y a entre l'être et le savoir. Quand on est, on n'a pas besoin de savoir. On est là.
Just be.
Just be. Mais Descartes avait dit « je pense donc je suis », à mon avis, c'est une très grosse erreur. « Je pense donc j'ai un mental ».
Donc juste être là, présent.
Oui, c'est comme ça, c'est facile à dire, mais voilà, donc c'est vraiment l'expérience du corps, hein, toujours, qui parle, quoi. On est présent dans son corps, mais on n'est pas présent dans sa tête.
Mais c'est ça, parce que juste être présent, déjà à l'école, quand le prof nous appelle, on dit présent. Donc on est déjà présent derrière, assis sur sa chaise d'école. Donc qu'est-ce que ça veut dire être présent? C'est compliqué de comprendre ça, parce que là, celui qui va nous entendre, toi auditeur, bien sûr qu'on est présent. Je suis en train d'écouter la radio, je suis en train de faire à manger, je suis en train de... Mais c'est pas ça la présence, c'est autre chose.
Tout ce que je pourrais en dire n'a aucun intérêt. La seule chose qui est intéressante, c'est de le vivre.
Thank you. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jean-Michel, donc on se rencontre sur ce festival ici de chamanisme. Toi, tu es auteur, conférencier. Tu disais qu'un des sujets de prédilection sur lesquels tu aimes bien t'exprimer, ou tu aimes en tout cas partager, c'est cette notion de présence. Être en présence, être en conscience. Est-ce que tu peux développer un petit peu ?
Ben, disons que non, j'en parle pas énormément, je le pratique. Donc, parce que ce qui est important aussi dans la rencontre, c'est l'exemple. Hein. Et parler de la présence, ce n'est que parler. Hein. Mais être là, c'est un autre exercice. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être là quand je parle dans les conférences et tout. Et quand je ne peux pas le faire en permanence, eh bien, voilà, je me consacre pour les conférences et je m'entraîne en fait à être là. C'est mon yoga à moi.
Donc être là, ça se fait en silence. Ça peut se faire en silence aussi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. J'essaye aussi dans le silence d'être là.
Ça me fait penser à cette phrase qu'on lit parfois sur des cartes. Le sage n'agit pas par les paroles, mais le sage agit par les actes.
On peut agir de toute façon, c'est faire quelque chose. Donc autant faire les choses bien, du mieux possible en tout cas, de la meilleure façon qu'on puisse le faire. Moi je vais te dire un truc qui est très important, c'est que le mental est un bon chien, mais un mauvais maître. Voilà, s'il y a une chose à se rappeler sur le mental, c'est que le mental n'est pas le mal. Le mental est un bon chien, mais un mauvais maître. Donc c'est à nous de le mettre à sa place. Voilà.
Donc en utilisant son intuition ou son cœur ?
Ah, par exemple, extrêmement intéressant, bien sûr. Développer son intuition, c'est dépasser les lois du mental.
Donc c'est toujours finalement une sorte de curseur à trouver entre ce qu'on va penser et ce qu'on va ressentir, et trouver l'équilibre entre ces deux formes d'intelligence. On parlait d'intelligence au début de l'émission.
C'est ça, tout à fait. Et le mental n'est qu'un vérificateur. Mais principalement, d'ailleurs, tous les grands chercheurs, les grands philosophes, les grands musiciens ont tous dit que l'intuition avait précédé en fait la vérification par le mental. Or, nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on développe le mental et après, on oublie l'intuition. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre à développer son intuition et la faire vérifier par le mental après, voilà.
Alors j'ai peut-être terminé cette émission comme ça, parce qu'à l'école on nous apprend effectivement à réfléchir, à viser notre tête, mais pas du tout à développer cette notion d'intuition. Donc comment faire si on se rend bien compte qu'effectivement on est souvent prisonnier de son mental et qu'on a envie de développer cette intelligence du cœur ou cette intuition? Par quoi commencer pour essayer de redescendre tout doucement, faire ce chemin de la tête vers le cœur?
Ah ben on fait comme tous les grands mystiques, on fait le silence.
10 secondes, ça suffit?
C'est bien, c'est un bon début.
Mais bon, je suis quand même pas satisfait par la réponse sur l'intuition, parce que le silence, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Le silence, peut-être, oui, peut-être un moyen d'apprendre à être aussi, juste là. Et bon, dans la méditation, on parlait du bouddhisme avant, cette notion de voir ses pensées, les observer, voir que finalement on n'est jamais vraiment présent, parce qu'on est toujours en train de penser à quelque chose, une douleur, le vent, l'oiseau, l'avion, je ne sais quoi qui va traverser notre esprit, donc on est déjà en train de penser, on n'est pas en train de ressentir. Donc le silence, oui, peut-être, mais voilà, je veux d'autres outils, d'autres clés.
Bah, si tu prends l'exemple du bouddhisme, c'est simple, hein, les bouddhistes, pour faire le silence en eux, ils ont une méthode très au point, c'est 3 ans, 3 jours et 3 mois emmurés dans une grotte. Voilà. Et non, mais c'est pas quelque chose de facile, je dis pas. Mais on peut commencer petit à petit, on peut commencer par la méditation, on peut commencer par se calmer personnellement, ensuite par laisser nos idées circuler, parce qu'on ne les arrêtera pas. Hein. Et donc quand tu as des idées comme ça qui émergent, c'est de les laisser circuler et prendre de la distance avec ce que tu penses, de prendre de la distance avec ce que tu crois, de prendre beaucoup de distance, y compris à observer tes pensées à distance. Ça, c'est le début du silence.
Jean-Michel, merci à toi.
Merci à toi, c'est toi qui es venu me chercher.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.